La prison, ce serait peut-être une annexe du Club Med. Hein.
La prison, c'est pas une colonie de vacances, c'est pas le Club Med.
La prison est-elle devenue le Club Med? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui.
J'aurais bien aimé que ce soit le Club Med.
Je vous trouve en retard. Je vous assure qu'à part avoir des mauvaises idées...
Je reçois des lettres désespérées de détenus qui, une nuit, sont levés et puis sont heurtés dans leur co-détenu, mort, pendu.
Un Club Med, la prison, vraiment. Un Club Med, une passoire, et puis est-ce que c'est mieux ailleurs, à l'étranger? Cette phrase, on les a déjà entendues. Bonjour, je suis Yves Pulici. Et dans cette série Prison hors limite, on interroge ces légendes pour découvrir vraiment ce qu'il se cache derrière les murs et les concertinas, ces barbelés derrière les barreaux des cellules françaises. La France n'a jamais autant emprisonné qu'aujourd'hui, plus de 87 000 détenus en mars 2026. Alors, je suis allé en prison, en maison d'arrêt exactement, pour découvrir la vie en détention, celle des détenus dans cet épisode, celle des agents, des médecins, des conseillers d'insertion ensuite, et puis dans un dernier épisode, dans le troisième, y a-t-il une solution à la prison? Une solution sans mur, sans barbelé, sans gardien, comme à l'étranger. Vous entendrez dans cette série des témoignages inédits tournés en prison, la voix de celles et ceux qui y travaillent et le bruit de la prison loin des clichés. 9 mètres carrés, c'est la taille d'une cellule. Être détenu, c'est y passer parfois 23 heures par jour. Face au plafond, au mur, isolé, mais rarement seul, un co-détenu ou deux.
Monsieur.
Bonjour, ce sera pas par là.
Je vous explique, je ne sais pas par où c'est. Je suis sénatrice de Paris.
Ce sera de l'autre côté.
D'accord.
Bonjour.
Sénatrice.
MB1, directrice de détention. Est-ce qu'on peut se mettre sur le côté, s'il vous plaît?
Là, devant la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine de Nanterre, il y a une quinzaine de personnes qui attendent pour le parloir.
Bonjour. Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur.
Enchanté, monsieur Benesti, chef d'établissement. Bienvenue, bonjour messieurs.
Bonjour.
Carte de presse, on est bon, vous pouvez y aller.
L'un des moyens de rentrer en prison quand on est journaliste, c'est demander à l'administration pénitentiaire une visite guidée. Nos nombreuses demandes ont été refusées, alors l'autre moyen d'entrer, c'est avec un élu. Députés, sénateurs, sénatrices, ils ont le droit de visite des prisons et ils ont aussi le droit d'être accompagnés de journalistes. Ce jour-là, c'est Anne Souris, sénatrice écologiste de Paris. Elle nous permet de découvrir l'état de la maison d'arrêt de Nanterre.
On y va ? Allez. On est à 208%, donc quoi qu'il arrive, on est au double de notre capacité opérationnelle en termes de personnes détenues.
Le directeur de l'établissement de la maison d'arrêt de Nanterre nous accueille directement avec ces chiffres. 1233 détenus, une surpopulation de 208%.
En face, bâtiment B, qui est le bâtiment des condamnés, et vous allez avoir aussi le quartier disciplinaire et le quartier d'isolement. Et là-bas, c'est le bâtiment A, où vous allez avoir le quartier arrivant, la majorité des prévenus et un quartier vulnérable, c'est-à-dire des personnes qu'on préserve parce qu'elles présentent des facteurs de vulnérabilité au sein de la détention et qu'on se doit de préserver leur intégrité physique.
Et au milieu de ces quartiers A, B et C, il y a deux jardins avec des fleurs, des plantes. Là, on entre dans le bâtiment B.
Bonjour.
Bâtiment B, à l'intérieur, on a des fresques, des dessins.
Ici, vous avez l'unité sanitaire, c'est là où vous irez juste
alors
après. Surveillante, est-ce que c'est clair dans les escaliers ou pas? C'est bon? Vous bloquez tout le temps qu'on monte, s'il vous plaît? Je vous remercie.
Regardez, c'est en gilet.
Dans le bâtiment B de la maison d'arrêt, on est là dans la coursive. Il y a trois détenus qui nous interpellent. Ils nous demandent de venir voir leur cellule. On les suit. Sur la porte, des photos de footballeurs du PSG, un calendrier à l'intérieur, comme dans toutes les cellules de France, des toilettes, un meuble pour ranger ses vêtements, cuisiner et un lit. Ici, il est superposé et au fond, il y a un matelas plié en deux.
On n'a pas le droit d'agir, c'est pas normal. C'est pas normal. Regardez, c'est une doublette. On est trois, c'est pas normal. C'est pas normal. Et on n'a pas le droit de dire, c'est ça le pire. C'est-à-dire, si on veut demain, si on veut parler, c'est non, c'est mitard, c'est élac, c'est bagarre, c'est tuté, c'est quoi? On est, c'est quoi ? On est des détenus, on est des chiens, on est quoi ?
Concrètement, la surpopulation des prisons, c'est dans 9 mètres carrés, il y a 2, voire 3 détenus.
Vous avez un lit superposé avec deux lits, quoi. Vous avez des endroits vaguement, puisque c'est fait pour un, donc il y a des étagères pour poser vos affaires. Vous avez un matelas par terre. Et vous avez trois gaillards qui, tant bien que mal, par exemple, pour manger, c'est tout simple. La cellule, elle est prévue, il y a une petite table demi-lune pour un. Alors les autres, ils mangent sur leurs genoux. Je m'appelle Dominique Simoneau, je suis contrôleuse générale des lieux de privation de liberté.
Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'on voit derrière vous, la photo ?
Je pense que, sans me retourner, c'est la cour de promenade de la prison de Fresnes. Et c'est ça que vous pouvez admirer, des denrées alimentaires vieilles et des rats. C'est répugnant. C'est la cour de promenade.
Ça ressemble à ça, une prison aujourd'hui en France ?
À peu près, oui. À peu près partout. Parfois, pour ne pas dormir par terre, comme il y a parce que c'est répugnant de dormir par terre, il arrive que le détenu qui dort par terre ait la tête près des toilettes. Donc le type qui se lève la nuit pour aller aux toilettes, il enjambe le matelas, il installe ses deux jambes autour du matelas et il fait pipi au-dessus de la tête. Parce que comme vous le savez peut-être, il y a à peine de muret pour séparer les toilettes du reste de la cellule. Ça ressemble à un endroit... des pays en voie de développement, je sais pas, ou des squats dégoûtants qu'on peut visiter parfois. Puisque vous êtes journaliste, je l'étais, j'en ai visité des endroits comme ça. Mais encore, un squat, on peut en sortir. La cellule, on peut pas.
Regardez, doublette 3. Heureusement qu'on a aménagé la cellule. Oh, mon tiens, démerdez-vous.
Si on n'aménage pas la cellule, on fait
comment ? Rassurons, là, on est dans une doublette. Actuellement, vous voyez, il y a deux lits, on est d'accord ?
On est trois.
C'est-à-dire là, mon co, là, quand il dort, là, il doit mettre son matelas. Ici, moi, demain, je vais aller aux toilettes, c'est impossible, c'est mort.
On a mis des
packs d'eau. On a essayé de mettre des packs d'eau, tout ça.
Pour pas être par terre.
Ouais, voilà.
Ah ouais, super.
Donc, on n'a pas le choix. Trop la surpopulation.
Alors, le premier souvenir en détention, c'était du bruit, des odeurs. C'était vraiment des choses très sensitives, des mouvements. C'est beaucoup de cris, de souffrances, de détresse humaine. Youssef Rima, consultant justice prison.
C'est aussi un ancien détenu. Sorti en 2022, il a passé 14 ans en détention.
Voilà les premiers flashs que j'ai, puisque maintenant les premiers souvenirs remontent à longtemps. Et là, on s'habitue, justement, et on vit avec. C'est des odeurs de nourriture, beaucoup de parois, j'ai envie de dire. Pas beaucoup de vision, d'horizon. On va très vite avoir la vision obstruée par un mur, une grille, un barbelé, quelque chose. Il y a des barreaux, puis des caillebotis. C'est une surcouche de barreaux croisés. C'est un quadrillage métallique. La promiscuité aussi, c'était important ça. L'intimité, le manque d'intimité, plutôt.
Un mois, on est trois dans la cellule.
Un mois, vous êtes trois, et ça va, vous arrivez à pas vous taper dessus. Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans la journée ?
On regarde la télé.
On lit, on fait à manger.
On fait à manger. Il n'y a pas grand-chose à faire,
on ne vous ment pas.
Compliqué, il faut s'inscrire en formation, tout ça, mais même ça, ça prend du temps, vu que c'est surpeuplé, ça va faire deux mois, je suis là presque, là, je suis inscrit à rien du tout.
Mais moi, le sport, là, par exemple, j'espère que le sport cet après-midi vienne me chercher.
Ouais.
Ça fait trois mois, je suis là quand même.
Et vous avez jamais pu faire de sport ?
Jamais.
Jamais.
Ah bon ? Ouais.
Sport scolaire, formation.
Ouais.
Ça fait trois ans que je suis là, on me respecte pas, on me ramène des troisième cours. Et je suis là pour violence, j'ai pas envie de repartir dans mes travers. T'as vu, je suis là, je suis grave calme. Mais cette détention-là, ils nous prennent pour des chiens, je mens pas. T'as vu, même on est là, on a beau s'exprimer, on a beau être gentil ou pas. Ici, ils nous considèrent pas, on n'est pas considérés. Je mens pas. Combien de fois j'étais à deux doigts de la connerie, je me suis retenu, j'ai pris sur moi. Mais jusqu'à quand ? Ça, c'est jusqu'à quand, ça ? Vas-y, moi, j'ai même pas envie de trop parler. Je mens pas, c'est compliqué.
On est trois dans une cellule. on accepte d'être trois dans une cellule. Mais par exemple, là, avant de tomber sur ce co-détenu, on avait un co-détenu, c'était pas possible. C'est compliqué.
Avec l'ancien pro, ça s'est tué un peu avec l'ancien pro. Bah oui,
c'était pas possible.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui est horrible ?
Profil. Moi, clairement, je lui dis, c'est le profil. C'était un plus jeune, pas mature dans sa tête. Moi, j'ai bloqué.
Moi, faut changer.
Le surveillant est venu m'ouvrir la porte, j'ai mis mes chaussures, je suis sorti et j'ai dit au surveillant, je ne rentre plus dans la cellule. Emmène-moi voir la chef.
Je ne mens pas, non, on parle pour tous les détenus nanterres, parce que c'est comme ça partout. Hein.
Là, on vraiment, on parle pour tout le monde.
Dans toutes les cellules où vous allez partir, c'est 3, et c'est, je ne mens pas, c'est 4, horrible. 5.
Dans une quadruplette, ils sont 5.
Ma première prison, c'était à la santé, avant les rénovations. On a été jusqu'à 5 en cellule. Et à un moment donné, personne ne parlait la même langue. Et donc, c'était assez marrant comme choc des cultures, j'ai envie de dire. Il y avait deux lits superposés, 1-2-3 lits, 1-2-2. Ça ressemble à beaucoup de gens allongés sur leur lit, chacun dans son petit monde, son petit univers. On attend patiemment les activités ou la promenade. Une journée, la ronde du matin, 7h, le surveillant ouvre la porte et vérifie qu'on est toujours vivant. Puis il repasse après. Si c'est notre jour de douche, il repasse quelques minutes après pour nous demander d'aller à la douche. Enfin, si on veut aller à la douche. Parce qu'à ce moment-là, on avait le droit à 3 douches par semaine. Donc si c'était notre jour de douche, il fallait se dépêcher d'y aller le matin. Et si jamais on n'était pas prêt à ce moment-là, il fallait attendre 2 jours plus tard pour pouvoir aller à la douche. Souvent, les douches sont chronométrées. Donc c'est... Alors parfois, il y a des petits minuteurs de 10 minutes pour faire en sorte que ça tourne assez vite et que tout le monde puisse passer. Je dis 10 minutes parce qu'on avait calculé une fois le temps, mais c'était pas officiel. Ensuite, on retourne en cellule et puis on attend la promenade ou l'activité. Et la promenade, ça durait une heure et demie à peu près, comptant les temps de mouvement, de faire descendre tout le monde, chaque cellule par cellule, etc. Ou elle par elle. On retourne en cellule après la promenade et puis on attend le repas. Il est à peu près 11h30 à ce moment-là. Donc on attend la distribution du repas et puis on mange. Je vais peut-être vous surprendre, mais on mange pas super bien. On peut améliorer nos aliments en cantina. Cantiner, c'est le terme pour acheter des produits, des denrées alimentaires ou d'hygiène. Mais bon, c'est payant, donc il nous faut... Ça sous-entend quand même avoir un pécule, ça sous-entend quand même avoir un peu d'argent. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde en détention. Beaucoup de gens sont très pauvres en détention, sont dans une grande précarité. C'est le prolongement de leur situation à l'extérieur. La détention ne fait que accroître ces inégalités et cette détresse. Donc l'après-midi, à cette époque-là, on avait encore 2 promenades par jour. L'après-midi, on attend encore la promenade. Enfin, à l'époque, on attendait encore la promenade. Ou l'activité. Ou le médical. Enfin, le médical, c'est tout ce qui concerne les soins médicaux. Donc souvent, c'est des listes d'attente. Il faut s'inscrire, il faut attendre d'être appelé. Donc une fois qu'on a fait son activité de l'après-midi, donc soit la promenade, soit son activité médicale, soit son activité socio-culturelle. Donc quand on finit les activités, il est à peu près 17h, 17h30. Donc retour en cellule, distribution du repas, du soir. Et puis après là, c'est une autre vie qui commence, c'est la vie de la cellule. Ceux qui ont les moyens, ils peuvent cuisiner eux-mêmes. Donc ça crée une petite convivialité entre les détenus. C'est des petits moments de parenthèse dans cette souffrance. C'est très compliqué de vivre et de se créer une vie en détention. Et donc ces petits moments de convivialité, de repas où on mange entre nous, c'est des moments importants. Et puis après vient le soir, enfin. Et le soir, c'est un autre moment. C'est un moment qui peut être très compliqué parce qu'on est... on est seul. Même si on est dans une cellule avec beaucoup de monde. Et l'insalubrité de la santé, par exemple, à ce moment-là, était catastrophique, était dangereuse pour les détenus. Je me souviens qu'il y avait des souris, il y avait des cafards, il y avait des punaises dans la cellule. Donc on ne dort pas sereinement. On est à l'affût, on est toujours en alerte. C'est compliqué de trouver le sommeil, d'avoir un sommeil profond. Ce qui fait qu'on ne se repose jamais finalement. On est toujours en alerte. Il y a certains détenus qui ont des systèmes de survie, qui vont mettre du papier toilette, qui vont enrouler, en faire des petits cônes et se les glisser dans l'oreille pour éviter que les cafards leur rentrent dans l'oreille. Et dans les narines aussi. Et ils essaient de dormir comme ça.
Tout à l'heure, Youssef Rami nous disait que les odeurs l'avaient marqué en entrant en prison. Ici à Nanterre, c'est l'humidité qui marque. Les douches que l'on nous montre sont sales, très sales. Il y a des odeurs de tabac aussi. Et puis ça résonne pas tant les bruits des détenus qui parfois appellent et hurlent pour interpeller des agents, mais par les clés, les portes qui claquent. Tout résonne, même les bruits de pas. Là, on monte au 4e étage du bâtiment B. C'est ici qu'il y a le quartier disciplinaire, le QD.
La carte disciplinaire, c'est une sanction. Pour le coup, moins ils y sont, ça veut dire que mieux ils se portent. Nous venons pour la visite de madame la sénatrice.
Bonjour monsieur.
Alors, le quartier d'isolement disciplinaire est en spécifique. On va vous demander de repasser vos effets. Ok ? Allez, on y va, chef.
Les détenus y vont quand ils sont punis et envoyés au trou. C'est le mitard.
Quartier disciplinaire, c'est pas terrible. C'est une cellule à part dans la détention. C'est un endroit assez strict où on a beaucoup moins de droits qu'en détention classique. C'est le terme qui est alloué, en général, la prison dans la prison, comme s'il en fallait. Il n'y a pas de meubles, tout est fixé au sol, rien n'est démontable, enfin c'est pas possible. Les matelas sont infugés, on ne peut pas prendre feu pour les suicidaires, pour les personnes qui souffrent même de santé mentale, et on a énormément en détention. C'est un endroit où on est seul, il n'y a pas d'interaction sociale avec qui que ce soit, si ce n'est les surveillants qui vous ouvrent la porte pour vous donner le repas et puis qui la referment. À l'époque, on avait le droit à un coup de fil par semaine, de maximum, je crois, 15 ou 20 minutes, je ne sais plus. À l'image de la prison, c'est un temps mort dans un espace mort, dans un angle mort. C'est vraiment ça. De temps en temps, on peut avoir accès à des livres qui nous sont proposés par l'administration pénitentiaire, donc il y a un petit chariot qui passe avec 3-4 bouquins à ce chariot. Et donc on a le droit d'en piocher un. Le problème de ces livres, c'est que très souvent, il manque beaucoup de pages à l'intérieur. Donc c'est une frustration terrible. Mais on compense avec notre imagination. Les pages manquantes.
Là, on s'y rend. Un détenu a accepté de parler à Anne Suiris, la sénatrice, et donc qui nous sert de guide pour cette visite.
Bonjour.
Excusez-moi, vous êtes de quelle partie ?
Je suis écologiste.
Sans caméra.
Est-ce qu'il peut vous enregistrer quand
il accepte, c'est bon.
Et votre voix, vous avez été transformée pour qu'on vous reconnaisse. Transformer la voix, hein, voilà. Donc, il n'y a pas de point.
J'ai eu une fouille de cellule il y a quelques semaines de cela.
Ouais.
Donc, on a trouvé 3 téléphones dans ma cellule, ouais. Un IPTV.
Pourquoi 3 ?
Parce que en fait, j'en avais 2 qui ne fonctionnaient pas.
Ah ouais,
il y en avait un qui avait l'écran tassé, un autre qui avait un problème de batterie. Donc, il n'y en avait qu'un seul qui fonctionnait.
Ouais.
Et l'IPTV me servait à regarder des séries. J'ai pris 15 jours de quartier disciplinaire. Ça fait 12 jours que je suis là.
Dans le quartier disciplinaire ?
Exactement.
Dans...
Ça fait, moi, si vous voulez, ça fait très longtemps que je suis incarcéré.
Ouais.
Pas très longtemps, mais...
C'est quoi très longtemps ?
Je suis incarcéré depuis 2019.
D'accord.
J'ai eu une première évasion, si vous voulez, en 2021. Ouais. J'ai pas réintégré lors d'une permission. J'ai passé un an dehors, à peu près. Je me suis fait interpeller en 2021. Et j'ai eu une autre évasion en 2023, si vous voulez.
Ah bah dis donc, vous évadez toujours.
J'ai eu deux périodes, okay. Voilà. En me faisant réinterpeller, de là, j'ai été incarcéré à Nanterre.
Qu'est-ce que vous faites dans la journée ?
Bah franchement, rien du tout. Rien du tout. Bah, je vais vous dire la vérité, madame, ouais. Vous savez. Le problème en prison, c'est que je pense pas que c'est vraiment là que les gens changent. Je vous dis la vérité, je pense pas du tout que ce soit vraiment là. C'est-à-dire que on est dans un milieu où quand vous voyez les discussions qu'on a, que ce soit en promenade ou autre, c'est pas des discussions de réinsertion ou des discussions qui amènent à un bon retour à la vie en société, etc. Je me retrouve au mitard. Je vous assure qu'à part avoir des mauvaises idées et des envies de... vraiment de... et d'en vouloir aux personnes qui m'ont fait ça, qui mettent dans des conditions comme ça, je vous jure qu'il n'y a aucune bonne idée qui sort de là.
Et votre mental, comment
vous voyez ce que je veux dire, madame ?
Votre mental.
Le mental, c'est catastrophique.
Les quartiers disciplinaires, donc c'est les quartiers, je refais le bon, hein, mais qui sont les plus suicidogènes de mémoire, mais qui sont 6 à 7 fois plus suicidogènes que le reste de la détention, qui est elle-même 6 à 7 fois plus que la population libre. Vincent Scuderoni, je suis avocat au barreau de Paris et président de l'association des avocats pour la défense des droits des détenus. Donc c'est des quartiers qui sont matériellement extrêmement difficile à vivre, avec des droits qui sont limités temporairement pour les personnes détenues, notamment sur certaines correspondances, ou l'accès aux cours de promenade, accès à l'activité, voilà. Et matériellement, c'est une cellule qui est extrêmement sommaire, par moments dans un état catastrophique. Donc c'est des quartiers qui sont extrêmement difficile, et vous avez des personnes qui sont dans des situations de contestation avec l'administration pénitentiaire, qui par moments font revendiquer leurs droits, quand ils en ont marre de vivre dans des conditions absolument indignes, qu'ils tapent sur la porte, et bien taper sur la porte ou ne pas se soumettre à un ordre de l'administration pénitentiaire, c'est une faute disciplinaire, donc ils encourent d'aller au quartier disciplinaire, ce qui n'a pas résolu la difficulté de base, et les emmène par moments dans des cercles où ils sortent du quartier disciplinaire, sont en tension avec un agent pénitentiaire, retournent au quartier disciplinaire et s'enferment en fait dans un mécanisme de contestation avec l'administration pénitentiaire, de rébellion et de voilà, une rupture de dialogue, et où la seule solution de l'administration pénitentiaire, c'est la sanction. Il y a évidemment, je crois, de mémoire, 8 ou 9 sanctions qui peuvent être prononcées à l'issue d'une commission de discipline, notamment des avertissements, interdiction de télé, isolement en cellule, déclassement au travail. Ouais, il y a beaucoup de possibilités, mais quand on regarde les statistiques de l'administration pénitentiaire, je n'ai pas sous les yeux sur la question, mais de mémoire, je crois que c'est 80% des sanctions qui sont prononcées sont liées au quartier disciplinaire, avec sursis ou sans sursis. Mais l'essentiel, en réalité, porte sur le quartier disciplinaire. Alors, vous voyez, il y a 8 degrés de gravité de sanction, mais pour l'essentiel, c'est le degré le plus grave qui s'applique.
Alors, la souffrance, elle est partout en détention. Partout. Chaque mot, chaque cri est décrit en un, de jour comme de nuit. Des suicides, bien sûr, il y en a beaucoup trop. Des mutilations, des appels à l'aide, des gens qui se scarifient. C'est vraiment le quotidien, c'est pas anecdotique, c'est vraiment le quotidien. C'est beaucoup trop récurrent, c'est pas assez pris en charge, pas assez pris au sérieux. Toute cette détresse humaine, on s'en occupe pas, on prend pas ça. C'est pas important pour l'administration. Ce qui est important, c'est l'ordre, c'est la sécurité. Oui, bien sûr, moi, j'ai vu des mecs en détention qui s'ouvraient volontairement devant toi et enfermé dans une cellule. Et t'as le mec qui est en pleine démence et qui s'ouvre de partout. Comment tu réagis? Tu sais qu'on est en pleine nuit, il n'y a pas de surveillant, il n'y a rien. Et t'es avec un mec qui parle pas ta langue et qui s'ouvre de partout, et du sang partout. Et qui crie, qui s'agite partout. Et comment tu réagis avec ça?
Comment vous avez réagi?
Bah, j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu, j'ai essayé déjà de le calmer et puis d'enlever sa lame et puis voilà.
On reçoit des lettres désespérées de détenus qui ont assisté à ça, qui une nuit se sont levés pour aller aux toilettes et puis se sont heurtés dans leur co-détenu, mort, pendu. Mais c'est chez nous, c'est en France. Je vous assure, j'ai une colère, mais noire. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal qu'il y ait autant de suicides, 7 fois plus que dans la population dehors. C'est pas normal que des co-détenus puissent tuer leurs co-détenus. C'est pas normal que les secours ne viennent pas quand on appelle. C'est pas normal qu'on laisse le personnel et les détenus à l'abandon de cette manière. Parce que je dois vous dire que pour le personnel, c'est également épouvantable. Leurs conditions de travail sont épouvantables.
Et moi, je travaille très souvent sur les questions de décès et de suicide en détention. C'est un des sujets que je traite activement. Et il faut le dire, la vision de l'administration pénitentiaire, elle est très rétrograde sur ces questions-là. Pour une majorité, ils considèrent que c'est inévitable, c'est-à-dire que la personne détenue, elle a voulu mettre fin à ses jours et que on pouvait rien y faire parce qu'elle avait des remords par rapport au fait qu'elle a commis, hein, sachant qu'il faudra rappeler que vraiment 80 ou 90% des personnes qui sont incarcérées, elles sont pour des motifs assez communs, humain et on n'est pas dans le crime qui justifie des podcasts audio sur toutes ces questions. Donc elle voit de façon assez rétrograde ces questions-là, et puis leur seule façon de réagir face à la prévention du suicide, en réalité c'est pas vraiment une prévention du suicide qu'ils opèrent, mais plutôt une interdiction du passage à l'acte suicidaire, c'est-à-dire qu'ils vont surveiller pour empêcher le passage à l'acte, c'est-à-dire avec des mesures de contrôle extrêmement difficiles, qui ont des conséquences sur l'état psychologique des personnes détenues, par exemple en faisant des rondes de nuit, en tapant sur la porte pour vérifier que la personne elle est bien réveillée, qu'elle est bien en vie, donc lui demander de faire un geste par moment, donc en le réveillant une, deux, trois, quatre fois par moment au sein de sa cellule pendant la nuit, chaque nuit, pour vérifier qu'elle est bien toujours vivante. Ça ressemble à du harcèlement. Il peut y avoir aussi allumer la lumière au sein de la cellule pour réveiller la personne, vérifier qu'elle est toujours mouvante. Et donc l'administration pénitentiaire, elle entre dans un mécanisme où elle veut simplement protéger sa responsabilité, éviter que les personnes se décèdent sous sa main, parce qu'elle en a l'obligation, hein, c'est l'article 5 et 7 du code pénitentiaire. Mais elle n'envisage pas, ne considère pas le fait qu'elle pourrait agir sur la prévention de l'acte suicidaire, c'est-à-dire un accompagnement renforcé pour les personnes qui sont détenues avec un risque suicidaire, un accompagnement, c'est-à-dire des activités, accès suffisant au psychologue, vérifier qu'il peut bien voir sa famille, peut-être avec des parloirs peut-être allongés ou plus fréquents, en tout cas avoir des modalités d'adaptation pour les personnes qui présentent un risque suicidaire, voilà, un suivi plus particulier. Mmh. Je voulais juste rajouter ça sur les proches des personnes incarcérées qui trouvent la mort en détention, le suivi également qui est fait après le passage à l'acte suicidaire est absolument calamiteux pour les établissements pénitentiaires à l'égard des proches. Vous avez des familles qui se retrouvent pendant plusieurs semaines sans information sur le décès de leurs proches. Combien de fois j'ai reçu à mon cabinet des proches qui me disaient « J'ai appris en me rendant deux semaines après à mon parloir qu'on m'a dit que la personne n'avait plus d'écrou actif ». Et qu'après des recherches, avoir patienté pendant 10 minutes à l'accueil, on m'a dit « Ah, je suis désolé, mais il est mort ». Voilà, c'est des genres de témoignages que je peux recevoir. Une autre famille m'avait dit qu'ils avaient appris sur Snapchat le décès de leurs proches, parce que dans les réseaux de familles, de proches de détenus qui essaient de s'entraider, ben, ça avait tourné. Imaginez l'horreur de l'apprendre comme ça, alors que, je le rappelle, hein, l'établissement financier a évidemment l'obligation, et le chef d'établissement, hein, pas l'établissement en tant que tel, le chef d'établissement d'informer les proches comme il se doit, de les recevoir en entretien, de leur expliquer la démarche, et de leur proposer aussi éventuellement de voir le psychologue de l'établissement. Et on le demande souvent, et il n'y est très rarement fait droit, mais de pouvoir voir aussi la cellule où leur proche a trouvé la mort, c'est extrêmement important pour pouvoir faire son deuil.
Plus de 87 000 détenus sont aujourd'hui enfermés en France. Littéralement, les prisons débordent. 7 500 incarcérés dorment sur des matelas posés par terre.
Comment on se retrouve dans une situation où on a 3 détenus par cellule ? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ?
L'explication, elle est très simple. C'est les prisons, elles doivent accepter toutes les personnes que l'autorité judiciaire leur envoie, en particulier dans les maisons d'arrêt.
Benjamin Monnery, il est fondateur de l'Observatoire des disparités de la justice pénale. En gros, il analyse les chiffres du ministère de la Justice pour comprendre comment fonctionnent les prisons et la justice en France.
Et donc, fatalement, si le flux d'incarcération est trop élevé par rapport aux capacités d'absorption du système pénitentiaire, on se retrouve à ce qu'on ait 3 détenus, parfois même 4 détenus aujourd'hui dans des cellules de 9-10 mètres carrés. Le parc pénitentiaire, il augmente lentement. On construit des prisons, mais on construit assez peu, en moyenne 2 par an, disons, alors qu'on a des milliers de détenus qui arrivent et qui sont difficiles à absorber.
C'est ça qu'on emprisonne de plus en plus en France. C'est pourquoi il y a plus de criminalité, ou comment on l'explique ?
Alors, ce qui est un peu paradoxal dans la surpopulation, c'est qu'on n'incarcère pas vraiment de plus en plus de personnes. On a toujours un flux entrant de l'ordre de 78 000, 79 000 personnes qui, chaque année, sont incarcérées. Ce qui change vraiment depuis quelques années, c'est la durée moyenne de détention. Les personnes passent en moyenne de plus en plus de temps derrière les barreaux. Donc aujourd'hui, c'est quasiment 12 mois, un an, alors qu'on était à 10 mois et même 8 mois si on remonte une décennie à peu près en arrière. Donc en fait, on a des peines qui sont de plus en plus longues, pour des raisons qu'on peine parfois à expliquer d'ailleurs. Il y a des explications qui viennent quand même de réformes pénales qui ont eu des effets inattendu et un peu pervers, notamment ce qu'on a appelé les aménagements de peine ab initio, où les magistrats sont incités à aménager les courtes peines avant toute incarcération. Ça, on a vu que ça avait amené beaucoup de juges à prononcer des peines un peu plus longues, justement pour contourner ces seuils d'aménagement. Donc c'est un des effets pervers des réformes récentes. Les magistrats, en fait, ils s'adaptent aux nouvelles contraintes, finalement, introduites par la loi, par les réformes. Et bien souvent, le législateur, il a du mal à anticiper comment vont s'adapter les magistrats. Mais en effet, si vous dites à un magistrat, il va falloir aménager avant tout écrou les courtes peines de moins de 6 mois et même quasiment jusqu'à un an de prison, eh bien, ces magistrats se sont adaptés en partie en prononçant des peines un peu plus longues, ce qui en fait génère pour partie le mouvement qu'on observe aujourd'hui d'augmentation, d'allongement des durées des peines.
Mais le jour où dans nos têtes ça va vriller, c'est non, c'est de notre faute, non, c'est nous, on est trop violents, non, c'est... on a la mentale, c'est tout. La mentale,
merci de nous avoir
c'est ce que dans la tête. Hey, on a Nanterre, mais Nanterre pas tes rêves.
La surpopulation, bien sûr, rend les conditions de détention de plus en plus dures, voire indignes. Les conditions de travail aussi. Rappelez-vous, au début de cet épisode, le directeur de l'établissement de la maison d'arrêt de Nanterre nous parle directement des chiffres de surpopulation. Il nous dit aussi que les agents ne sont qu'à 73% en ce moment. 73% si le nombre de détenus ne dépassait pas, eux, les 100%. Je vous rappelle, il est de 208. Risque de surmenage, de violence, d'évasion, d'introduction de téléphone ou de drogue par exemple. On l'entendra dans le deuxième épisode de cette série. Prisons hors limite sont-elles des passoires ? Réponse dans la suite de cette série que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application de BFM. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser une note et un commentaire.